Vous écoutez
RMC.
Il est 7h. Très bon réveil à tous sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Clément Gouitz. Bonjour Clément.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Après des tensions autour de l'abattage de 200 bovins dans l'Ariège, après un cas de dermatose nodulaire, les forces de l'ordre ont repris cette nuit le contrôle de la ferme. RMC s'est procuré le jugement qui a prononcé la liquidation de Brandt. La justice n'a pas cru au projet de reprise des salariés. Et Karim Benzema relance le débat sur son retour en équipe de France. Son rêve, participer à la prochaine Coupe du Monde.
Face à face tendu hier entre agriculteurs et forces de l'ordre dans l'Ariège.
Jet de projectiles, gaz lacrymogène, grenades de désencerclement. Hier, aux abords de cette ferme, les forces de l'ordre sont intervenues pour déloger des centaines d'agriculteurs opposés à l'abattage de 200 bovins en raison d'un cas de dermatose nodulaire, maladie contagieuse qui touche ces animaux. Ils jugent cette décision disproportionnée. Les forces de l'ordre ont pu reprendre hier soir le contrôle de cette ferme. Justement, Jean-Wilfried Forquès, vous êtes sur place pour RMC. Alors qu'en est-il ce matin ?
Oui, un blindé de la gendarmerie bloque depuis quelques heures maintenant l'accès à la ferme. Impossible d'y accéder ce matin. Il y a des cordons de gendarmes mobiles juste derrière. La ferme est sous contrôle. Il n'y a plus d'opposants sur place. On va pouvoir entrer ce matin dans la phase 2 de l'opération. Elle va pouvoir débuter avec l'entrée en action des vétérinaires. La préfecture de l'Ariège que j'ai contactée il y a quelques minutes refuse de dire pour l'instant quand cette opération d'abattage va pouvoir débuter. Les services vétérinaires doivent, on le rappelle, endormir 208 vaches, injecter évidemment le fameux produit qui va mettre fin à leur jour. On ne sait pas si les deux éleveurs, les deux propriétaires de la ferme et leurs familles vont pouvoir assister à cette scène qui sera forcément difficile, forcément cruelle.
Jean-Wilfried Forquès en direct de l'Ariège pour RMC.
7h02 et c'est un mélange d'incompréhension et de colère après la liquidation de Brandt.
700 emplois supprimés, la SCOP pourtant soutenue par les salariés et les pouvoirs publics n'a pas suffi. Le gouvernement pointe du doigt les banques accusées de ne pas avoir joué le jeu du patriotisme. Mais Victor Joannin, selon le jugement du tribunal, leur rôle n'est pas le seul à peser dans cette décision.
Oui, le tribunal rappelle d'abord que Brandt était déficitaire depuis plusieurs années dans un marché ultra concurrentiel sans perspective de retour à meilleure fortune. Le plan de financement du projet de SCOP présentait trop d'aléas, peut-on lire dans le jugement. Il reposait en grande partie sur un financement participatif, c'est-à-dire une cagnotte en ligne au succès incertain, ainsi que sur la vente hypothétique de biens immobiliers. Le porteur du projet, un entrepreneur sans aucune expérience dans l'électroménager, n'avait pas non plus réussi à trouver un partenaire industriel vital pour former des synergies. Le tribunal estime même que la SCOP aurait pu conduire à une mise en danger supplémentaire des salariés tenus de placer plus de 1000 euros de leur denier personnel dans l'aventure. En somme, un projet voué à l'échec, un simple prolongement artificiel d'une activité condamnée, selon ses mots.
Et on en parle à 7h10 avec François Bonneau, président de la région Centre-Val de Loire. Le sort de 1000 salariés d'IKKS fixé aujourd'hui. Le tribunal de Paris se prononce sur la reprise du groupe de prêt-à-porter, groupe placé en redressement judiciaire début octobre. Une offre semble tenir la corde. La moitié des emplois pourrait être sauvée si elle est choisie.
7h04 sur RMC. La mère de Matisse réclame une loi pour interdire le protoxyde d'azote.
Ouais, son fils de 19 ans a perdu la vie à début novembre, percuté par un automobiliste sous protoxyde d'azote. Cette mère de famille a été reçue hier par les ministres de la Justice et de l'Intérieur, Gérald Darmanin et Laurent Nunes, pour leur demander d'interdire ce gaz au volant.
On a évoqué la possibilité de considérer la substance comme une drogue en fait, hein, et prendre en considération que les gens qui ont une détention sur eux de protoxyde puissent par exemple se faire confisquer le véhicule ou être interpellés, chose qu'aujourd'hui est impossible. Donc il y a vraiment des pistes, on a vraiment senti que nos ministres étaient vraiment sensibilisés sur le sujet et que les choses allaient vraiment bouger. Et ce qui est important pour nous et pour les autres.
J'y reviendrai d'ailleurs à 8h30 avec mon invité dans le face-à-face, Gérald Darmanin, le ministre de la Justice. Il fera aussi le premier bilan de ces fouilles XXL qui ont lieu en ce moment même dans les prisons de France.
RMC 7h05, un élan de solidarité se dessine pour Sonia héroïne du 13 novembre 2015. Elle avait dénoncé le terroriste Abdelhamid Abaoud et évité un nouvel attentat à la Défense. Son témoignage, déjà raconté en exclusivité sur RMC début 2016, est maintenant mis en lumière dans un documentaire sur France Télévisions. Une cagnotte en ligne a été lancée. Et Guillaume Bié, elle cumule déjà plus de 37 000 euros.
Oui, cagnotte lancée par l'association de victimes Life for Paris pour aider Sonia qui vit toujours sous protection avec une autre identité et qui ne peut pas réclamer de l'aide, souligne le président de l'association Arthur Desnouveaux.
Le paradoxe de Sonia, c'est que c'est une héroïne bien vivante mais complètement désincarnée pour des raisons de sécurité. Et donc finalement, participer à cette cagnotte, c'est une manière de lui rendre hommage et de lui dire « on sait ce que vous avez fait Sonia ». On veut vous en remercier et vous incarner quelque chose de très beau dans toute cette horreur du 13 novembre. Et donc, donner à cette cagnotte, c'est vraiment faire un geste citoyen.
D'autant plus que Sonia en a besoin, souligne son avocate, maître Samia Maktouf.
Elle est surtout face à des difficultés administratives, financières, de santé aussi. Tout ce qu'elle espère, Sonia, c'est de pouvoir, une fois que ses lourdes dettes seront payées, c'est de pouvoir faire du caritatif ce qu'elle faisait avant cette vie qu'elle mène.
À travers son avocate, Sonia remercie déjà tous les donateurs. La cagnotte, elle, reste ouverte pour une durée indéterminée.
Jean-Pierre Berger, nouveau maire de Saint-Étienne. Il était jusqu'ici premier adjoint et remplace Gaël Perdriau, condamné à 4 ans de prison et à l'inéligibilité dans l'affaire du chantage à la sextape. Le nouveau maire a été désigné lors d'un conseil municipal extraordinaire. Il dirigera la ville jusqu'aux élections municipales de mars. Karim Benzema lui fait un appel du pied à Didier Deschamps. Le Ballon d'Or 2022 qui avait pris sa retraite internationale il y a près de 3 ans ouvre la porte à un retour en équipe de France dans une interview donnée à l'équipe. Il rêve tout simplement du mondial. Aurélien Tiercin.
Karim Benzema en équipe de France, c'est normalement de l'histoire ancienne, l'attaquant ayant annoncé sa retraite internationale après la Coupe du Monde 2022. Sans compter ses relations très compliquées avec le sélectionneur Didier Deschamps, le sujet de sa blessure pendant ce mondial qatarien et son renvoi des Bleus étant toujours sensible. Mais à nos confrères de l'équipe, Benzema affirme ne pas vouloir polémiquer et laisse entendre qu'en cas d'appel pour la Coupe du Monde 2026 l'été prochain, il pourrait répondre « oui, il dit aimer gagner, aimer les trophées, alors jouer une Coupe du Monde ne se refuse pas. La question d'un retour post-mondial lui est aussi posée. Sous les ordres possiblement de Zinedine Zidane, pressenti comme futur coach des Bleus, l'attaquant de 37 ans qui joue en Arabie Saoudite avoue avoir toujours une relation exceptionnelle avec Zidane et il reste flou en disant « là, on ne sait pas du tout ce qui se passera ».
Et l'OL conforte sa première place en Ligue Europa après sa victoire hier soir 2-1. Les Lyonnais assurent au moins leur place en barrage. Le LOSC et Nice n'ont pas brillé. Défaite des Lillois 1-0 face aux Young Boys de Berne. Nice s'est incliné sur le même score face à Braga.
C'était le journal de Clément Langouet sur RMC. Il est 7h08. Brandt, c'est fini. La justice a annoncé donc hier la liquidation de Brandt. 700 salariés, 2 usines dans la région d'Orléans. Bonjour François Bonneau.
Bonjour.
Vous êtes le président de la région Centre Val-de-Loire. Vous étiez prêt à mettre plusieurs millions pour sauver Brandt, mais voilà, le jugement du tribunal en a décidé autrement. Ils ont décidé la mort de Brandt. RMC a pu consulter en exclusivité le jugement du tribunal. La reprise de l'entreprise par ses salariés était, je cite, vouée à l'échec. Voilà ce que disait le tribunal. Alors à qui la faute? Je vous pose la question dans un instant. Et vous-même, qui vous nous écoutez, venez témoigner. Est-ce qu'on peut encore croire à l'industrie en France ou est-ce qu'on va inéluctablement vers la fermeture de la marque France en quelque sorte? J'attends vos témoignages au 32-16. Il est 7h09.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
7h12 sur RMC et RMC Story. 700 salariés sur le carreau. La marque française d'électroménager Brandt liquidée. C'est le tribunal de commerce de Nanterre qui en a décidé ainsi. Bonjour François Bonneau.
Bonjour.
Vous êtes le président de la région Centre Val-de-Loire. Vous auriez aimé que la décision soit différente. Vous avez tout fait pour que la décision soit différente. Vous étiez prêt à mettre des millions, votre région, la mairie d'Orléans. Il y avait plus de 20 millions sur la table. Et pourtant, cette décision comme un couperet. Votre réaction ce matin?
C'est une réaction de colère, parce qu'on pouvait éviter. On pouvait éviter. C'est une décision qui est finalement une décision du renoncement, c'est clair, une décision de l'abandon et une décision du sacrifice. Et ça, c'est inacceptable. Et je considère que si nous continuons ainsi, la France industrie est complètement morte. On ne peut pas laisser partir une entreprise qui, sur les 2 derniers exercices, était à l'équilibre, parce que les salariés se battent, parce que les ingénieurs se battent. Ce sont des marques qui sont emblématiques. Demain, elles vont être produites en Chine. Et on ira acheter des produits chinois, les voitures, l'électroménager. Moi, j'ai des exemples dans ma région. J'ai des exemples qui marchent. Alors, pourquoi ne pas donner à cette probabilité, cette possibilité, pourquoi ne pas donner à ces salariés qui se sont mobilisés dans une SCOP, pourquoi
ne pas leur donner leur chance ? Les juges, eux, en ont décidé effectivement autrement. RMC a pu lire en exclusivité le jugement sur lequel ils se fondent. Ils estiment que Brandt était déficitaire, que Brandt avait des dettes, que le projet de reprise par les salariés était, je cite, « voué à l'échec ». Voilà ce que dit le tribunal.
Le tribunal le dit, mais il y a aujourd'hui une réalité économique, une réalité industrielle. Cette entreprise avait fait la preuve sur les deux dernières années qu'elle était revenue à l'équilibre. Certes, elle avait des dettes, mais nous étions engagés dans un processus qui permettait de gommer ces dettes. On avait un niveau de loyer des locaux industriels qui était faramineux dans le montage qui avait été fait avec les Algériens. C'est pas normal. Finalement, le travail, la production des salariés, elle est aujourd'hui condamnée par un abandon de l'industrie à l'échelle de notre pays, je le dis.
Le pays abandonne, enfin je veux dire, il y a un décalage total entre les grandes promesses, les grandes déclarations.
Mais bien sûr, on parle de
réindustrialisation toute la journée. En réalité, c'est totalement décalé avec ce que vous avez vécu sur le terrain.
Mais vous voyez qu'on ne résiste pas à cela. On est infoutu sur de l'électroménager qui est dans tous les foyers français. Brandt, il y en a partout, du Dietrich, c'est la haute qualité. On est infoutu aujourd'hui de dire que ces entreprises, on va les accompagner. Et soyons clairs, si on ne change pas les règles à l'échelle de l'Europe, on n'y parviendra pas. Aujourd'hui, l'Europe est le ventre mou de la planète. On peut
pourquoi par normes excessives, par règles excessives. Mais on sait que par exemple la BPI n'avait pas le droit de monter au capital,
mais c'est,
parce
mais c'est
que
aberrant.
L'entreprise était légèrement trop grande par rapport. Il y a des seuils.
C'est aberrant quand vous voyez comment d'autres continents, l'Amérique aujourd'hui, la Chine, comment ils soutiennent leur industrie pour envahir complètement le marché européen et français.
Est-ce que nos règles nous tuent aujourd'hui?
Mais nos règles nous tuent, c'est complètement dépassé. Donc moi je dis aujourd'hui qu'il faut, avec les collectivités territoriales et avec l'État, que nous ayons une vraie politique industrielle, que nous ayons des banques qui soient acquises à cette politique industrielle.
Les banques, on peut dire qu'elles n'ont pas été tellement présentes. On va y revenir, mais je voudrais qu'on accueille Mathieu parce qu'il vient de nous appeler au 32-16. Bonjour Mathieu.
Bonjour Pauline.
Mathieu à Rouen, dans le Morbihan, sur les routes d'ailleurs, peut-être au moment où on se parle, puisque vous êtes chauffeur routier. Votre réaction, est-ce que vous pensez que c'est symptomatique effectivement de la mort de l'industrie française?
Les Français savent faire, hein, le Made in France. Moi, je trouve qu'on fait des produits de qualité. Là, on a la preuve avec le jeu vidéo qui a été primé, la pub pour Intermarché, là, qu'on vient de parler, où tout le monde en parle. On sait faire le Made in France.
On sait faire.
Mais le problème, c'est que ce qui tue nos entreprises, c'est les charges. Faut quand même sortir énormément d'argent pour produire. Donc, du coup, l'argent qu'on sort, faut la rentrer. Et derrière, les produits, on les vend plus cher. Donc, c'est sûr qu'il faut soutenir notre industrie française et peut-être pas non plus que l'État donne de l'argent à perte, on va dire, dans les entreprises, mais je sais pas. L'électricité, on est quand même très souverain en France. On arrive à produire notre électricité. On l'a fait payer à des prix astronomiques aux entreprises. Il y a plein de choses comme ça où déjà on pourrait faire diminuer. J'ai l'impression que tout le monde veut réindustrialiser la France, mais par contre, dès que l'État a un problème d'argent, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut aller taxer les entreprises. C'est pas comme ça qu'on va réindustrialiser la France. Hein.
Contradiction totale, effectivement, que vous pointez, Mathieu. Est-ce que vous partagez ce constat, François Bonneau?
Oui, il y a l'enjeu des charges, mais il n'y a pas que l'enjeu des charges. Encore une fois, aujourd'hui, les difficultés de cette entreprise, elles étaient liées au fait que la production, elle était complètement siphonnée par un niveau de loyer qui était déraisonnable. Il faut, à l'échelle de la France, que nous ayons du portage. Vous avez parlé de la Banque publique d'investissement. Il faut que nous ayons une Banque publique d'investissement qui soit capable dans ces situations. C'est l'essentiel qui se joue.
Elle aurait été capable. Le problème, c'est qu'elle en était interdite, d'après ce que je comprends, parce que la taille de Brandt était excessive, oui, par rapport à son cahier des charges.
Règles européennes, règles françaises. Regardez encore une fois ce qui se passe en Chine et ce qui se passe. Est-ce qu'on va se défendre? Est-ce qu'on va être capable d'avoir une réglementation, une protection à l'échelle de l'Europe qui fasse que le Made in France, le Made in dans l'Europe soit aujourd'hui en train de perdre le marché de l'automobile? Est-ce que vous voyez des réactions de l'Europe au niveau véritablement où il doit se situer?
Ils sont en train d'assouplir la règle déjà de 2035 qui sans doute avait mis la charrue avant les bœufs.
Et j'entends les charges, mais quand même, qui paie les pots cassés? Ce sont les 700 familles là, qui sont aujourd'hui.
Qu'est-ce qui va se passer? C'est la question que je voulais vous poser, François Bonneau, vous qui êtes donc le président de la région. Qu'est-ce qui va se passer maintenant donc, pour ces 700 salariés?
Il va y avoir un plan social. Ils vont avoir des droits, etc., etc. C'est-à-dire qu'on perd à la fois 700 emplois et on condamne 700 familles. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la région va à nouveau se mobiliser. Moi, je veux, dès la première heure, être là pour que toutes les formations qui seront nécessaires pour que ces personnes puissent retrouver un boulot, on puisse le faire. La région a une compétence économique. Dès lundi, je vais engager un travail avec les entreprises du secteur pour voir. Il y a des gens qui ont des compétences très intéressantes, qui sont conducteurs de ligne, qui savent faire de la maintenance, qui savent faire de la logistique. Il faut que nous les accompagnions. Mais on perd 700 emplois. Et ces 700 familles, c'est Noël avec la feuille de licenciement sur la table du réveillon.
Et
c'est
inacceptable. Et on partage effectivement cette très très grande tristesse. Merci. Merci François Bonneau, donc président de la région Centre-Val-de-Loire. Merci aussi à Mathieu pour son témoignage. Et puis Mathieu, vous le disiez, il y a des choses merveilleuses qu'on sait faire en France et que le monde entier nous envie. Vous parliez de la pub Intermarché qui cartonne absolument partout dans le monde. Eh bien, sachez que justement, à 7h40 sur RMC, Théophile Dufresne, qui est le cofondateur d'Illogic Studio, qui a produit, créé cette fabuleuse pub Intermarché, sera avec nous en direct sur RMC. Il est 7h19, Arthur Chevalier vient de rentrer dans ce studio. Salut Arthur.
Bonjour Apolline.
Arthur, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé cette semaine être prêt à organiser des élections dans son pays. Alors attention, un chef d'État en guerre sort rarement gagnant des élections qui suivent.
Oui, c'est même une malédiction. Clémenceau, De Gaulle, Churchill, tous ont gagné la guerre et pourtant tous ont dû quitter le pouvoir.
Et puis il y aura Arnaud Demange qui va venir pirater le face-à-face. Mon invité ce matin, c'est Gérald Darmanin, le ministre de la Justice. Ne bougez pas, on se retrouve dans 60 secondes. Il est 7h20 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Et c'est l'heure de remonter l'histoire avec Arthur Chevalier, 7h21. Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
Arthur, sous la pression de Donald Trump, Volodymyr Zelensky a commencé à ouvrir la porte à une nouvelle élection présidentielle. Une élection que le président ukrainien n'est pas du tout sûr de gagner.
Non, et d'après certains sondages, il pourrait même les perdre. Son concurrent, c'est un général très populaire qui s'appelle Valery Zaluyny. C'est l'ancien commandant en chef des armées ukrainiennes. Aujourd'hui, il est ambassadeur à Londres.
Ça paraît impensable que Zelensky perde les élections après tout ce qu'il a fait en réalité, non?
Oui, et pourtant, ça serait pas le premier, puisqu'en général, les chefs d'État en temps de crise ne survivent pas à la crise, justement. Prenez par exemple Georges Clemenceau, c'était le président du Conseil, donc le Premier ministre de la France pendant la Première Guerre mondiale. Une guerre contre l'Allemagne qu'il va remporter en 1918. C'est un héros national, et donc en 1920, il se présente à l'élection présidentielle où il était clairement le favori.
Et il perd?
Mais oui, il perd. Il perd, alors à l'époque ce sont les parlementaires qui élisent le président, pas les Français. Mais oui, Clémenceau perd cette élection et en plus contre un homme taciturne, sans le moindre charisme, un nobody qui s'appelait Paul Deschanel, complètement oublié aujourd'hui. Ça sera la fin de la carrière politique de Clémenceau.
Le général de Gaulle va lui aussi en réalité être écarté du pouvoir à ce moment-là.
Exactement. Alors lui, c'est un peu différent puisque c'est de son fait. En 1945, de Gaulle a libéré la France de l'Allemagne nazie. Tout le monde l'adore. Il restaure la République. Il devient le chef d'un gouvernement provisoire. Un gouvernement avec lequel il va avoir très vite des désaccords. Et de Gaulle détestait faire des compromis. Qu'à cela ne tienne, en 1946, il démissionne. Et alors, avec la manière, un dimanche matin, il convoque ses ministres. Personne ne sait pourquoi. De Gaulle entre dans la pièce, il annonce « je démissionne », il serre la main à tout le monde et il s'en va. Merci, bonsoir. Il reviendra au pouvoir, mais 12 ans plus tard, après une très longue traversée du désert.
C'est pas beaucoup mieux pour Winston Churchill.
Non, même combat pour Churchill. À la tête de l'Angleterre, il avait résisté presque seul à Adolf Hitler. En 1945, c'est la fin de la guerre. Du coup, on organise des élections. Churchill fait campagne pour le parti conservateur, donc la droite. Et contre toute attente, c'est le parti travailliste, donc la gauche, qui remporte la mise. L'Angleterre met son héros à la porte. Churchill se réfugie à la campagne où il passe ses journées à déprimer. Mais lui aussi reviendra 6 ans plus tard, à 77 ans. Il redevient Premier ministre pour un dernier tour de piste.
Mais pourquoi, quand on gagne la guerre, on perdrait les élections?
Alors c'est un peu difficile à dire, c'est une sorte de malédiction. Mais il y a une explication plausible. Quand vous êtes chef de guerre, vous liez votre sort à cette guerre. Une guerre, évidemment, ça laisse de très mauvais souvenirs. Quand ça se termine, eh bien, les gens veulent passer à autre chose. Et le premier qui paye, naturellement, c'est le chef. Alors ce qui ne veut pas dire non plus que les gens ne vous aiment plus, ni qu'on ne peut pas revenir. Bref, rien n'est joué pour Zelensky, c'est l'histoire qui le dit.
Merci Arthur Chevalier, l'historien d'Apolline Matin. 7h23, Arnaud Demange.
RMC.
Demange pirate, le face-à-face.
Salut Arnaud.
Bonjour.
Dans le face-à-face tout à l'heure sur RMC et BFM TV, je reçois le ministre de la Justice, Gérald Darmanin.
Oui, Gérald Darmanin qui revient des Antilles, où il a visité plusieurs établissements présidentiels. pénitentiaire, oui, j'allais dire présidentielle. En fait, le lapsus, c'est pas ici. C'est pas mal. Cette semaine, il a participé à une fouille des cellules de Fleury-Mérogis. Et voilà, en fait, depuis octobre, il aura passé plus de temps en prison que Nicolas Sarkozy. Donc, on y vient, finalement, on y vient. Il va nous sortir un bouquin aussi. Le guide du mitard, il va critiquer. Fleury-Mérogis, 1 étoile sur 5, établissement décevant, punaise de lit et petit déjeuner qui laisse à désirer. D'ailleurs, je pense que les établissements auront tous une étoile. Gérald Darmanin est aussi mobilisé sur le terrain du narcotrafic à Marseille. Alors ce mardi, une opération a mobilisé 1500 policiers. 15 points de deal ont été contrôlés sur les 213 000 que compte Marseille. Non mais parce qu'à Marseille, tu t'assois sur un banc public, t'es sur un point de deal en fait. Tu regardes en dessous, oh, 2 kilos de coke. Et ils ont récupéré 7 kilos de cannabis. Mais bon, là encore, trouver 7 kilos de cannabis à Marseille, ça a pas l'air si difficile. T'installes une fête foraine, tu mets une attraction avec un looping, 2 policiers en dessous avec un drap, et hop, en 2 heures, ils te récoltent 40 kilos, 8 kalachnikovs, 30 seringues usagées et un bébé. Est-ce que c'est raisonnable d'ailleurs de saisir le cannabis à Marseille? Je veux dire, quand t'as des réseaux avec des délinquants qui ont des calaches, qui s'organisent en cartels, qui sont plutôt violents, est-ce vraiment une bonne idée de retirer le cannabis de l'équation? Est-ce que ça va pas les rendre encore pires si on leur enlève? Tu sais, Apolline, moi si je me fais braquer, bah, entre Tony Montana et Bob Marley, je prends Bob Marley.
Oui, bien sûr.
Fuck Babylone. Est-ce que la solution pour faire baisser la délinquance à Marseille, c'est pas de leur donner encore plus de cannabis?
Ah ouais.
Bonjour monsieur, je vois que vous êtes en train de tabasser cette personne. Je vais vous demander de vous mettre sur le trottoir, tirer sur ce joint de marijuana de Jamaïque. Allez, allez, on triche pas. Buffalo Soldier. Central, c'est bon, il est inoffensif. Par ailleurs, la prison est-elle une solution pour les petits trafiquants? Parce qu'on sait qu'ils peuvent ressortir pire que ce qu'ils sont rentrés, c'est l'école du crime. Je veux dire, tu rentres pour 3 grammes de shit, tu ressors, t'es vice-président des Républicains, ça peut aller très vite. Hein. Alors, Louis Sarkozy proposait l'autre jour de légaliser toutes les drogues, c'était dans sa chronique, c'était chez nous, il disait... Comme disait le général de Montboursif lors de la terrible bataille de Saint-Arnulf en 1237, il faut légaliser la drogue et retirer le code de la route. Voilà. C'est sûr qu'on va rigoler. Le gars, il s'est enfilé toutes les drogues, il prend la route et il n'y a pas de panneau. Alors là, que la fête commence. Aux abris, Apolline. Louis va être dans sa caisse, il va faire « Je vais faire comme le maréchal de Crayancourt en 1716. Allez, rendez-vous avec Gérald Darmanin à 8h25, on va dire cette fois. Hein.
8h25 sur RMC et BFM TV. Gérald Darmanin dans le face-à-face et on vous retrouve, Arnaud Demange, d'ici là. Ce sera à 8h15. Il est 7h26. Et c'est l'heure. Et c'est l'heure. It's time. C'est l'heure de jouer pour vous couvrir. Cette fois-ci, non pas seulement de cadeaux, mais d'argent, de cash. De cash. Parce qu'aujourd'hui, on vous offre jusqu'à 5000 euros cash derrière l'une des cases du calendrier à ouvrir d'ici le 24 décembre. Aujourd'hui, on vous fait gagner en cash soit 500 euros, soit 1000 euros. Parfait pour gâter vos proches, vos amis, votre famille. Vous envoyez tout de suite Noël au 732-16. Noël au 732-16. Et vous aurez de quoi faire des cadeaux ou tout simplement vous les garder. Vous avez le droit. Il est 7h27. Le gagnant sera en direct avec nous à 8h20. Bonne chance à tous. Noël au 732-16.
75 centimes par SMS, 3 SMS maxi.
Et on se retrouve dans un instant pour la météo et le journal. Et ne manquez pas juste après le journal, l'un des fondateurs du studio qui a imaginé cette magnifique, merveilleuse pub Intermarché. Il sera avec nous. Il est 7h27. 7h30 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal des 10 d'Angers. Bonjour Élise.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Il vient d'être sacré jeu vidéo de l'année et il est français. Clair Obscur, Expédition 33, repart de Los Angeles avec 9 statuettes des Game Awards et ramène la coupe à la maison. C'est une première. La colère agricole gronde de nouveau en Ariège, notamment contre l'abattage généralisé des troupeaux dès lors qu'un cas de dermatose nodulaire est détecté. Et puis un Français sur 3 souffre d'insomnie en France. Selon le dernier baromètre Santé publique France, durée moyenne d'une nuit, 7h32.
Le jeu vidéo français est à son apogée ce matin.
And the game of the year is... Mon ami, Clair Obscur, Expédition 33.
avec pour la première fois le titre de meilleur jeu vidéo de l'année, décroché par Clair Obscur Expédition 33, une pépite déjà vendue à plus de 5 millions d'exemplaires depuis le mois d'avril. Le jeu tricolore a été sacré cette nuit aux Game Awards, les Oscars du gaming, et on peut clairement parler de prouesse, Clara Gabillet.
Oui, d'abord parce que c'est la toute première création de ce studio français, Sandfall Interactive, une trentaine de personnes installées à Montpellier, petite équipe et petit budget, moins de 10 millions de dollars pour créer ce jeu, bien loin des 2 milliards de dollars pour un GTA. Le principe de Clair Obscur, c'est un jeu de rôle qui nous plonge dans la ville lumière inspirée du Paris de la Belle Époque. Le joueur doit tenter de mettre fin à cette malédiction. Chaque année, les habitants sont effacés par une mystérieuse peintresse. Qui est-elle? Pourquoi fait-elle ça? Un suspense qui reste entier jusqu'à la dernière seconde du jeu. Une direction artistique très poussée également en termes de musique. Parmi les nombreux prix remportés cette nuit, Clair Obscur a aussi obtenu celui de la meilleure bande originale, au point qu'ils entament une tournée européenne de concerts. Tous les billets se sont arrachés en à peine un quart d'heure.
Et autre coup de force de ce jeu vidéo français, son prix plutôt raisonnable comparé à ses concurrents. On est autour des 50 euros, ce qui en fait aussi une bonne idée de cadeau à glisser sous le sapin de Noël.
7h32, soirée sous haute tension en Ariège,
où environ 500 agriculteurs ont tenté de défendre un troupeau de vaches de l'abattage à cause de la dermatose nodulaire. Des affrontements très violents qui ont éclaté avec les forces de l'ordre, car les éleveurs dénoncent des exécutions inutiles. Pourquoi éliminer tout un cheptel quand seuls quelques bovins sont contaminés? Eh bien parce que selon la réglementation européenne, c'est la seule méthode efficace pour stopper la propagation, Amélie Courté.
Oui, car la dermatose nodulaire est particulièrement contagieuse. Elle se transmet par des insectes, tants, mouches, qui piquent un bovin puis l'autre. Et les premiers symptômes, des croûtes sur le corps, apparaissent 2 à 3 semaines après la contamination, laissant le temps à la maladie de se propager.
Donc, c'est malheureusement l'abattage total, dans la mesure où s'il y a un ou deux bovins touchés, c'est qu'il y en a d'autres qui le sont aussi.
Jeanne Brugère-Picot est professeure à l'école vétérinaire de Maisons-Alfort.
Si on maintient l'infection dans l'élevage, on maintient aussi la possibilité de contamination entre les animaux, et surtout les insectes peuvent partir à 2, 3, 4 kilomètres et infecter d'autres élevages.
S'il n'y a pas l'abattage total d'un troupeau, la maladie met en général 15 jours à contaminer un autre élevage, d'après la vétérinaire.
Le traumatisme reste intact. C'est ce qu'a dit hier dans une story Instagram l'ancienne Miss France Laurie Tillman, après avoir revisionné une séquence des enfants de la télé dans laquelle l'humoriste Harry Habitant l'embrasse de force. C'était en 2013, séquence exhumée sur les réseaux sociaux après la polémique des sales connes lancée par Brigitte Macron à des militantes féministes.
Il est 7h34 sur RMC. On n'a pas tous vécu la même nuit.
Et non, pour un tiers des Français, elle a été agitée, entrecoupée ou tout simplement trop courte, selon le dernier baromètre de Santé publique France publié hier. 33% des 18-79 ans souffrent d'insomnie, un phénomène qui touche davantage les femmes et les personnes précaires. Vous l'avez constaté à Lyon, Vincent Chevalier, on n'est pas tous égaux face au sommeil.
Bien dormi cette nuit, Célia fait partie des chanceuses.
Ça va, plutôt bien.
La jeune femme s'est tout de même fixé un certain rythme pour continuer à bien se reposer.
J'essaye de lire tout le temps avant de dormir, de me coucher vers la même heure, d'avoir une bonne hygiène de vie à côté, j'essaye de bien manger, j'essaye de faire du sport.
Selon le baromètre, les Français dorment en moyenne 7h32, durée qui évolue selon le sexe et l'âge. À 60 ans, Sandrine s'en rend bien compte.
En fait, ça fait déjà bien 6-7 ans où c'est 6-7 heures et pas plus.
Mais il y a des exception, l'étude les appelle les courts dormeurs. Ils sont 21% à ne pas avoir besoin de plus de 6 heures de sommeil. Marvin en fait partie.
6 heures, je suis dans ma meilleure forme. 7 heures, je dors trop. 8 heures, je dors trop. Et 5 heures, je dors pas assez.
Et puis, il y a un tiers des Français qui se plaignent d'insomnie.
Mes nuits sont un peu compliquées. Mon sommeil est assez agité.
Nicolas cumule les études et un petit boulot et il se rend bien compte de son déficit de sommeil.
La concentration, la productivité aussi. Dans la vie de tous les jours, en fin de semaine surtout, ça se ressent et on n'a plus de motivation et c'est compliqué.
Sans parler de la santé. Le manque de sommeil augmente les risques de développer des maladies cardiovasculaires ou des troubles métaboliques.
7h36, on a commencé ce journal avec une fierté nationale. On le termine avec un collectif qui nous donne beaucoup d'espoir. L'équipe de France féminine de handball affronte cet après-midi l'Allemagne pour tenter de décrocher une place en finale du mondial. Coup d'envoi à 17h45 et c'est une équipe solide qui s'apprête à jouer malgré l'absence de nombreuses cadres, Clément Brossard.
Oui, 5 titulaires habituels manquent à l'appel et malgré cela, les Bleus championnes du monde en titre vont connaître leur 8e demi-finale internationale de suite. Le sélectionneur Sébastien Gardillou est admiratif.
On est encore en demi-finale. Je ne sais pas si les gens y mesurent ce que ça représente, cette longévité ou au moins cette capacité d'être encore en demi-finale. Il manque 900 sélections. Bravo à elle, vraiment bravo à elle.
Prochaine étape, l'Allemagne, un adversaire bien connu de cette équipe de France et de sa pivot, Pauleta Foppa.
La dernière fois qu'on les a joués, c'était aux Jeux Olympiques à la maison. Ça a été très 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 chaud. Ça s'est joué sur la fin de deuxième mi-temps.
Mais l'autre pivot, Sarah Bouktit, le sait. La France, même diminuée, sera désormais attendue.
S'ils en doutaient, je pense que tout le monde a vu qu'on avait un bon niveau et qu'on pouvait aller très loin dans cette compétition. C'est tant mieux, elles seront moins sûres d'elles quand elles arrivent sur le terrain.
Capitaine Tamara Horacek veut surfer sur un quart de finale parfaitement maîtrisé, rendant son équipe puissante.
Je ne dirais pas imbattable parce que chaque match est différent. Je sais que si on construit comme ça nos matchs, ça sera plus difficile de nous battre. Si elles nous battent, c'est que vraiment, elles ont été exceptionnelles. Moi, j'ai confiance en cette équipe-là, mais je garde les pieds sur terre et je sais que chaque match a sa vérité.
Verdict ce soir, donc, pour rêver d'une finale dimanche, soit face aux Pays-Bas, co-organisateurs du Mondial, ou la Norvège, actuelle meilleure nation au monde.
Et puis le quintet, c'est à 20h15 sur l'hippodrome de Vincennes.
Et voici le pronostic de la Dream Team des courses RMC. Le favori aujourd'hui, c'est le numéro 11, Imperator Della. L'outsider, c'est le 10, High Propulsion.
C'était le journal des listes d'Angers, 7h37 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Je me sens mal aimé. Je suis le mal aimé.
Vous l'avez sûrement vu, parce que tout le monde l'a vu en quelques jours seulement, ce petit loup, ce grand loup qui devient végétarien pour se faire des amis sur une musique de Claude François, un film d'animation, publicité pour la marque de supermarché Intermarché, et ça cartonne absolument, non seulement en France mais partout dans le monde. Bonjour Théophile Dufresne.
Et bonjour à vous.
Vous êtes le cofondateur du studio qui est derrière ce film qui a ému donc 30 millions de personnes au moment où on se parle, et ça continue à grimper. Un film 100% made in France, Cocorico. Vous nous racontez ce succès dans un instant. Il est 7h38.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h41 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Est-ce que vous aussi, vous avez été ému par la dernière pub Intermarché, ce loup qui se met à cuisiner, à devenir végétarien pour tenter de se faire accueillir par les autres animaux le soir de Noël? Film d'animation vu par plus de 30 millions de personnes dans le monde. Bonjour Théophile Dufresne.
Et bonjour.
Vive la France! C'est vous qui avez créé cette pub pour Intermarché. Votre studio, c'est Illogic Studio. Il est basé à Montpellier. Racontez-nous, vous imaginiez un tel succès mondial?
Bah écoutez, non, nous on ne s'attendait vraiment pas à de tels retours, de telles retombées. Donc quand on voit tous les commentaires en ligne, c'est vraiment fantastique. Hein. Toute l'équipe est trop contente parce qu'elle a travaillé dessus pendant des mois. Et donc de voir que le monde entier voit ce film et l'apprécie, c'est une véritable récompense.
C'est un merveilleux petit court-métrage, effectivement, qui est complètement enchanteur et qui est extrêmement joli, il faut le dire aussi. Quand vous dites que toutes les équipes, c'est qu'effectivement, c'est pas l'IA qui a fait ce très 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 beau court-métrage. Il y a des vrais humains qui ont travaillé dessus.
Alors tout à fait, non, c'est pour la partie animation, ça a impliqué plus de 60-70 artistes de notre côté. Après, le concept a été imaginé par l'agence de pub Romance avec les créatifs Victor Chevalier, Julien Bon, Alexandre Hervé. Quand ils nous ont contactés avec ce super concept, nous derrière, on a tout de suite voulu le faire à la main avec des méthodes traditionnelles, et c'est ce qui a rendu possible ce résultat.
Et effectivement, il est enchanteur parce que l'histoire est enchanteur, parce que les images sont magnifiques, parce que c'est du Claude François, parce que bref, il y avait tous les ingrédients du bonheur. C'est d'autant plus intéressant sur le plan même marketing et en termes d'image que il y a cette comparaison qui est faite, notamment par exemple avec la pub qui a été sortie à peu près au même moment, une pub pour McDo qui avait fait une publicité à l'inverse 100% IA et dont la thématique d'ailleurs était aussi beaucoup moins enchanteresse. C'est-à-dire que là, vous êtes sur une sorte de vivre ensemble où on se retrouve avec tout le monde qui a envie de partager un bon repas au moment de Noël. C'est un peu l'inverse de l'état d'esprit de la pub McDo où on disait genre Noël c'est l'enfer.
Bah, écoutez, nous on est persuadés en tout cas que les machines ne remplaceront pas l'humain et que les humains ont leur sensibilité, leur dose de tendresse et d'émotion qu'ils peuvent apporter dans un projet. Et c'est vrai que tout se fédérer autour d'un projet, autour d'un repas, bah c'est aussi ce qui fait notre force en tant qu'être humain.
Et ça, c'est assez merveilleux. Il y a aussi l'idée qu'à l'international, et ça, je l'ai constaté en le regardant sur les réseaux sociaux, il y a un certain nombre de comptes, notamment américains ou ailleurs, qui disent « mais c'est extraordinaire, vive la France et vive le bien manger ». Alors, cela dit, là-dessus, il y a aussi une question qui est qu'un loup qui mange des champignons et du poisson, c'est pas hyper réaliste. Et d'ailleurs, certains s'en agacent. Je voudrais quand même qu'on puisse accueillir Sylvain. On va pas juste dire que c'est merveilleux. Bonjour Sylvain.
Bonjour Apolline.
Sylvain, vous êtes agriculteur dans l'Allier. Et donc forcément, vous trouvez qu'un loup, ça mange aussi de la viande, quoi.
Ben, c'est le petit reproche que l'on peut apporter. Bon, tout d'abord, bravo pour ce magnifique dessin animé. Ça faut le dire, hein, faut quand même qualité, faut donner faut respecter quand même ce travail qui est vraiment magnifique. Mais alors le fait qu'on angélise encore une fois de plus le loup, ça pose quand même problème parce que il faut le rappeler que quand même au niveau national, on a quand même des problèmes, on a des problématiques avec cet animal. Et également le fait de dire que on peut le ressentir aussi comme une campagne anti-viande. C'est quand même une problématique, ça, hein, parce que un carnivore qui devient végétarien, moi je veux bien, mais la réalité n'est pas comme ça.
Théophile Dufresne.
Si je peux me permettre de réagir, là on est dans la situation d'un conte de l'enfance revisité du grand méchant loup, et le message n'est pas du tout anti-viande ou go-vegan. Hein, c'est vraiment un message de mieux manger. C'est un film sur un loup qui apprend à cuisiner des bons produits simples. Du terroir, faire des plats grand-mère, et c'est ça l'histoire de notre film.
Je dois dire que moi j'ai complètement acheté. Effectivement, j'étais quasiment au bord des larmes à la fin de votre pub, mais j'avoue que toutes les pubs Intermarché, je dois dire, me font quasiment pleurer parce que je les trouve toutes hyper émouvantes. Chaque fois, c'est vrai que c'est des très belles histoires et ça marche extrêmement bien. Une question quasi fondamentale, notamment pour la mère de famille que je suis. Tout le monde se demande s'il y aura une peluche de ce loup. Est-ce que vous savez si à un moment ou à un autre ça va être créé? Alors, et si ce sera Made in France?
Absolument pas de notre ressort. Nous, on l'espère, mais bon, ce n'est pas malheureusement entre nos mains.
Bon, on espère effectivement parce qu'il y a des centaines de milliers d'internautes qui réclament donc cette peluche du loup. Merci Théophile Dufresne et félicitations.
Merci.
Cocorico encore, le cofondateur donc de Illogic Studio, le studio d'animation derrière ce film d'animation. Bravo pour votre succès mondial. Et merci à Sylvain d'avoir témoigné. C'est important aussi qu'on entende ce point de vue-là. C'est vrai que le loup, la prochaine fois, il faudra faire une pub où il mange de la viande. Il est 7h46 sur RMC. Nos deux débatteurs sont entrés dans ce studio. C'est Cécile Duflot d'un côté, du côté gauche, vous le pensez bien, et Charles Consigny du côté droite. Salut à tous les deux.
Bonjour.
Il y a cette grève qui s'annonce particulièrement suivie lundi dans les trains de Normandie. Les syndicats, ils s'opposent à l'attribution des trains régionaux à un acteur privé. Est-ce qu'il faut ouvrir à la privatisation et à la concurrence les trains? Cécile?
Eh ben non, ça ne marche pas.
Charles?
Évidemment.
À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Avant d'entendre nos deux débatteurs, Charles Consigny et Cécile Duflot, le bonus, Mathieu, avec une nouveauté qui va nous faire danser.
Oui, quelques notes de piano, des cuivres, ambiance un peu disco, un peu funk, des petits wow 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 derrière. Vous avez peut-être reconnu le style. Attendez, ça va être plus clair là.
C'est pour tous qui cherchent un...
Gilbert Montagnier vient de retour avec cette nouvelle chanson qui est sortie en début de semaine. Alors on a peut-être l'impression qu'il est jamais parti. Première chanson inédite en 20 ans en réalité pour Gilbert Montagnier. Je vous glisse quand même un classique au passage, hein, quand même, ça fait plaisir à tout le monde. Gilbert Montagnier, 63 ans, qui annonce pour le coup un nouvel album pour mars prochain parce qu'il en a envie, dit-il. Ça s'appellera L'amour dans les mains, 11 titres, funk, soul, balade, annonce-t-il. Je n'ai plus de pression, je ne fais plus la course au hit. En tout cas, pour patienter, vous pouvez déjà vous habituer au nouveau single, ça s'appelle Ça sert à ça.
Ça sert à ça d'écrire une chanson. Ça sert à ça d'écrire une chanson pour capter l'émotion. Yeah, yeah.
RMC, Apolline Matin,
le débat.
Il est 7h49 et comme chaque vendredi, voix de droite face à la voix de gauche, Charles Consigny, côté droit, Cécile Duflot, côté gauche. Bonjour à tous les deux. Il y a cette grève massive lundi dans les trains de Normandie. Elle s'annonce très suivie. Les syndicats, ils s'opposent à l'ouverture à la concurrence des trains régionaux. Au-delà de la question juste de la région de Normandie, la fin du monopole de la SNCF. Bonne chose, mauvaise chose, Cécile?
Eh bien, on pouvait se dire pourquoi pas. Mais en fait, quand on regarde tous les exemples à l'étranger, et même ce qui se passe en France, aucun intérêt. Ça enrichit juste les opérateurs et les cabinets qui font des cahiers d'appels d'offres.
Donc vous n'êtes pas juste contre par principe, vous êtes juste contre parce que ça ne marche pas. Ça ne marche pas, Charles?
Je suis pas sûr que ça marche pas. Je constate sur la ligne Paris-Marseille que les premiers trains de la compagnie Trenitalia remplissent leur rame. Alors certes, je sais qu'ils sont subventionnés, etc., parce que ce sont les règles européennes. Mais je pense que c'est bien aussi. Moi, je suis attaché à la SNCF. Je prends très souvent le train. Je trouve que c'est la plupart du temps tout à fait remarquable. Pas toujours dans les trains régionaux où on a assez souvent des mauvaises surprises, mais en tout cas pour les TGV. Mais justement, les trains régionaux, à mon avis, peuvent progresser. Et je pense que c'est bien que nos agents prennent conscience qu'on est dans un monde concurrentiel et que, somme toute, cette activité, elle intéresse aussi d'autres opérateurs. Et j'ai l'impression que l'expérience Trenitalia est plutôt concluante. Et en plus, je trouve ça, si on est pro-européen, on est content de voir des compagnies européennes circuler dans toute l'Europe.
Sauf que l'exemple britannique, alors là, évidemment, c'est plus difficile parce qu'il y a la manche entre les deux. Mais enfin, l'exemple britannique, c'est qu'après la privatisation, ils sont aujourd'hui en train de renationaliser des trains.
Totalement. Et la ministre des Transports a dit « Nous allons mettre fin à 30 ans d'inefficacité, de gaspillage et de frustration des passagers. » Et donc, ce que je veux dire à Charles, on partage le fait d'être très attaché au train. C'est très important et c'est un outil aussi de solidarité territoriale exceptionnel. Parce que si on mutualise l'ensemble du réseau, on fait en sorte que les gens qui habitent à Périgueux, à Vierzon, ils puissent aussi prendre le train. Et le problème de la mise en concurrence, c'est que ça se fait sur les lignes très rentables, sur Paris-Lyon. Mais là où c'est rigolo, c'est que, entre guillemets, c'est que Trenitalia, en fait, ils font des tarifs plus bas avec l'argent du contribuable italien. C'est-à-dire que c'est les impôts des Italiens qui abondent Trenitalia, qui est en déficit, pour pouvoir essayer de prendre des parts de marché. Et je vais vous dire, c'est la même logique avec les Ouigo qu'on fait circuler en Espagne de manière déficitaire. Donc en fait, le train, la logique concurrentielle sur les mêmes rails, ça ne marche pas. Ça a été essayé dans plein de pays, et dans aucun pays, même la Suède, qui ont été les pionniers, ça ne fonctionne pas.
Charles.
D'abord, le fait de subventionner, etc., oui, même les compagnies aériennes sont subventionnées. Par exemple, la compagnie Emirates, qui progresse beaucoup en ce moment, est en réalité une compagnie d'État des Émirats Arabes Unis, et qui est très largement subventionnée pour rendre le territoire attractif, etc. Donc, ça me choque pas forcément. En revanche, je constate, puisqu'on parle des trains régionaux, que les trains régionaux, il y a très souvent des problèmes. Et là, les Français vont le voir à Noël. Ils vont voir à quel point on est sous-équipé en trains régionaux. Ils vont voir leurs trains soit totalement bondés, comme c'est le cas très souvent, où on se retrouve les uns sur les autres, sans place assise, parce que les opérateurs ne mettent pas sur les rails suffisamment de trains régionaux dans ces périodes très chargées, voire même, ce qui arrive souvent, des trains annulés. Ça arrive très souvent, vous arrivez à la gare pour prendre votre TER et on vous explique que le conducteur s'est pas réveillé, parce que c'est quand même ça aussi la
ça,
réalité.
Ça vous est vraiment arrivé, ça?
Ah, bien sûr. Ah oui. Ah non, on nous donne pas la vraie raison. Quand on discute un peu, on comprend que le gars s'est pas pointé.
Donc c'est encore une histoire de fainéant, Charles.
Donc moi, oui,
ça peut vous arriver à vous, Charles.
Malheureusement, c'est un lourd problème en France, la fainéantise, et notamment dans certains secteurs qui ont besoin de la concurrence pour se donner un petit coup de fouet.
On va remettre le sujet, le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est qu'il faut que le train fonctionne bien, qu'il soit pas trop cher, qu'il soit accessible, que toutes les gares soient desservies. C'est un vrai service public, en fait. Il faut partir de ce point-là. C'est un service public. Et dans un monde où il faut réussir la transition écologique, c'est un mode de transport décarboné, donc on a besoin que le train fonctionne bien et dans les régions. Après, ce sont aujourd'hui les régions qui décident de ce qui se passe dans leur région, du nombre de trains, de la fréquence et même des tarifs. Ensuite, il y a des opérateurs. Le problème, c'est que ce qui est important pour le train, c'est que quand vous arrivez à la gare de Bordeaux et que vous voulez prendre un TER pour Périgueux, il y a une bonne correspondance. Et même que si votre train est en retard, vous puissiez prendre un autre train. Et donc de faciliter l'utilisation du train et puis, dans un certain nombre de cas, de faire baisser le prix des billets. Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il se passe qu'en fait, on fait beaucoup d'argent sur les lignes très rentables, Paris-Marseille, Paris-Lyon ou Paris-Bordeaux. Et du coup, c'est ça qui permet normalement de financer les autres petites lignes. Si on donne les lignes très rentables à des opérateurs privés, vous verrez que les trains régionaux qui vous importent, ils vont encore plus se dégrader.
Charles.
Donc une vraie mutualisation, un vrai service public, c'est ça qu'il faut pour le train.
Charles.
Moi, je suis pour mettre des trains privés sur les petites lignes, justement.
Mais il n'y en aura jamais.
On verra.
Mais non, parce que c'est pas rentable.
Exactement. On verra. Regardez dans les trains régionaux pour la Normandie, la gare Saint-Lazare, est blindé de gens, de Parisiens boboisés qui partent en week-end en Normandie.
Enfin, surtout de gens qui travaillent tous les matins. Pardon Charles, allez à la gare Saint-Lazare le matin
aussi,
et pas en scooter.
Oui,
et vous verrez que c'est essentiellement des gens qui viennent travailler.
Non, oui, mais pas que. Il y a aussi énormément... Enfin, en tout cas, c'est très utilisé. Il y a énormément de gens le week-end. Il y a une demande qui est extrêmement forte. Je pense que un peu de concurrence ne nuira pas. Et s'agissant d'une boîte dans laquelle la SNCF, on a pris des mauvaises habitudes en matière de temps de travail, des mauvaises habitudes en matière d'âge de départ en retraite. Je rappelle que les contrôleurs SNCF sont les seuls qui avaient négocié une exonération de la dernière réforme des retraites de Macron qui vient d'être suspendue par l'Assemblée nationale. Donc, il y avait quelques mauvaises habitudes. Moi, je connais pas de secteur dans lesquels la mise en concurrence n'ait pas eu quelques vertus dynamisante du secteur. Donc je pense que
éloge de la mise en concurrence de la droite.
Ça a fragilisé tous les réseaux ferroviaires. Même au Japon, ils en sont
revenus. Regardez les taxis avec Uber, par exemple.
Mais c'est pas du tout la même chose.
C'est phénoménal, la concurrence.
On parle d'énormes investissements et de
trains
qui circulent les uns derrière les autres sur des rails. Ça n'a rien à voir. Le but, c'est un bon service public. Et là où je suis d'accord, c'est qu'on peut pas considérer que c'est la SNCF qui décide de tout. C'est un service public, c'est notre propriété collective. Et c'est un service public qui doit pas oublier, notamment, tout un pan du territoire, et je pense en particulier au Massif Central.
Merci Cécile Duflot. Le Massif Central dont vous parlez, effectivement, cette ligne qui devait être directe, notamment entre Lyon et Bordeaux, qui finalement passera par Paris.
Et qu'est-ce qu'on fait de Périgueux, de Limoges, de
Clermont-Ferrand ? Qui soigneusement évitera le Massif Central, qui est vraiment le délaissé. Pardon, je rajoute mon petit grain de sel, mais vraiment c'est un vrai coup de gueule que j'ai ce matin. Cécile Duflot, Charles Consigny, merci à tous les deux. Le débat du vendredi. Il est 7h56, on se retrouve dans un instant à la une du journal de 8h. Ces 200 bovins de la ferme de l'Ariège vont-ils être abattus ce matin malgré la mobilisation des agriculteurs ? La nuit a été extrêmement dure dans l'Ariège et on sera sur place dès le début de ce journal. Et puis dans un instant, la météo, douceur et grisaille. Notez dès à présent qu'à 8h25, le face-à-face, mon invité, ce sera le ministre de la Justice, Gérald Darmanin. Et puis n'oubliez pas, c'est bientôt Noël, si vous voulez participer et gagner le cadeau du calendrier de l'Avance, il est toujours temps d'envoyer Noël au 732-16. Noël au 732-16, le gagnant sera en direct avec moi dans 20 minutes, 7h57 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.